Il est 21h30 à Paris, une heure de moins à Kinshasa.
Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, condamnation de l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo Augustin à 10 ans de travaux forcés. Il est accusé de détournement de plus de 245 millions de dollars. Ses avocats dénoncent un jugement illégal. En France, réaction des parties civiles à la décision rendue vendredi par la juge en charge du dossier Agathe Abeyarimana, la veuve de l'ancien président autorwandais Juvenal Abeyarimana, pour son rôle dans le génocide de 1994. À la une également, début des fouilles archéologiques sur le site de Tiaroy au Sénégal. L'opération vise à déterminer le nombre de tirailleurs africains tués par les forces coloniales dans ce camp de transit de la banlieue de Dakar le 1er décembre 1944. Et puis nous irons ensuite au Mali où le président de la société civile de Ménaka a été enlevé lundi soir. Le rapt s'est déroulé en plein centre-ville de cette localité du nord-est, région proche de la frontière avec le Niger. Enlèvement perpétré par des assaillants non identifié. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a tranché ce mardi. Elle a condamné l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés. Il est reconnu coupable de détournement de plus de 245 millions de dollars. Des fonds destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, près de Kinshasa. Deux co-accusés sont également condamnés à 5 ans de prison. Il s'agit de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Déogratias Mutombo, et de l'homme d'affaires sud-africain Christo Gobler. Tous les deux sont actuellement à l'étranger. En tout cas, ce verdict marque la fin d'une longue saga judiciaire ouverte en 2021. À Kinshasa, la précision de Pascal Moulegua.
10 ans de prison à faire appliquer par le procureur général et 5 ans de privation d'action aux fonctions publiques, du droit de vote et des libérations conditionnelles. C'est moins que les 20 ans de détention requis par le procureur. La Cour a conclu que Matata Ponyo avait conçu, participé et bénéficié au détournement des fonds en validant des paiements surfacturés et des travaux non exécutés. Plus de 156 millions de dollars pour les parcs agro et 89 millions de dollars alloués à la construction du marché international de Kinshasa, deux projets qui n'ont jamais abouti. Sans surprise, la Cour a ordonné la confiscation des biens des trois hommes au prorata des sommes détournées, un jugement jugé spectaculaire et inique par la défense de Matata Ponyo. L'avocat Laurent Onyemba dit attendre le feu vert de son client pour contester la constitutionnalité de ce jugement devant les mêmes juges. L'opposant encore libre ce soir brandit toujours son immunité de député national. Selon des sources proches du dossier, le parquet général précédent haute cour devrait très prochainement décerner un mandat d'arrêt contre Matata Ponyo. Reste à savoir s'il ne sera pas défendu par l'Assemblée nationale qui avait déjà contesté la poursuite de ses procès sans que la Cour constitutionnelle n'ait sollicité la levée des immunités de l'opposant. Pascal Moulegua, Kinshasa. RFI.
Et puis en France, réaction des parties civiles à la décision rendue vendredi par la juge en charge du dossier Agathe Abeyarimana, la veuve de l'ancien président autorwandais Juvenal Abeyarimana, pour son rôle dans le génocide de 1994. La magistrate avait effectivement annoncé la fin de l'instruction sans mise en examen de la prévenue. Réaction de maître Richard Gisagara, avocat de la communauté rwandaise de France, l'une des parties civiles au procès de la veuve Abeyarimana.
Je l'apprends avec stupéfaction et je pense que pour les victimes du génocide commis contre les Tutsis, c'est une décision qui vient comme un coup de massue. Puisque, comme vous devez le savoir, depuis 2007, la Cour de cassation a confirmé la décision de la commission de recours des réfugiés qui considérait qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que Madame Agathe Kanziga aurait pris part dans le génocide commis contre les Tutsis. Vous savez, dans tous les procès qui ont donné lieu à des condamnations, il y a toujours des témoignages contradictoires. Mais encore faut-il chercher les bons témoignages. Ça, c'est quand même effarant de voir que on considère que le délai d'instruction est déraisonnable, dans la mesure où, comme tout le monde le sait d'ailleurs, si la justice a tardé à démarrer jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas du fait des victimes. Les victimes, elles, à ce jour, continuent toujours à subir les conséquences du génocide qu'ils ont subi.
Un propos recueilli par Esdras Ndikoumana. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko l'avait annoncé en février dernier. Des fouilles ont commencé sur le site de Tiaroy, en périphérie de Dakar. Il s'agit d'identifier des fosses communes où pourraient être enterrés les tirailleurs massacrés par l'armée française le 1er décembre 1944, alors qu'ils réclamaient leur prime de démobilisation. Objectif, Léa Lisa Vesterov, tenter de faire la lumière sur le bilan exact de cet épisode sanglant de la colonisation.
Les fouilles ont commencé il y a une dizaine de jours. Menées par une équipe d'archéologues sénégalais assistée par l'armée, les recherches se concentrent pour l'heure sur le cimetière militaire de Tiaroy, où des victimes du massacre sont présumées avoir été inhumées. L'objectif, sonder la terre pour localiser des squelettes ou de possibles fosses communes, car l'une des questions est de savoir si les tombes du cimetière militaire de Tiaroy sont vides, si des tirailleurs y ont bien été enterrés ou si ces corps se trouvent dans des fosses communes. Car en 2020, un député français a évoqué l'existence de 3 fosses communes situées sous les tombes anonymes du cimetière dans un rapport sur le massacre présenté au Parlement. Plus de 80 ans après les faits, les inconnues sont donc toujours nombreuses et l'objectif de déterminer le nombre exact de tirailleurs fusillés ce 1er décembre 1944 complexe, puisqu'à ce jour, les archives de l'armée française parlent toujours de 35 morts, alors que les historiens les estiment à plus de 350. Aucune limite de temps n'a été fixée aux archéologues de l'université Charente à Dieu de Dakar. Les possibles résultats seront en tout cas consignés dans un livret blanc qui doit être remis au président du Sénégal dans les prochaines semaines et tenu secret d'ici là. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et puis un ancien ministre de la Justice de l'ex-président sénégalais Macky Sall, inculpé pour tentative de corruption et assigné à résidence sous bracelet électronique par une cour spéciale. C'est ce que rapportent ce mardi ses avocats cités par l'agence France-Presse. Ismaïla Madiourfal est le deuxième ancien membre d'un gouvernement de l'ex-président Macky Sall, inculpé par la Haute Cour de Justice, juridiction spéciale habilitée à juger les présidents et ministres pour des délits et crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Au Mali, le président de la société civile de Ménaka, région du nord-est du pays frontalière avec le Niger, a été enlevé lundi soir. Sidi Barka a été kidnappé en plein centre-ville par des assaillants non identifiés. David Bachet, plusieurs pistes, dont celle des djihadistes de l'État islamique au Sahel ou celle de bandits locaux, sont envisagées.
Il sortait de la mosquée et rentrait tranquillement chez lui entre 19h30 et 20h. Mais selon l'entourage de Sidi Barka et les notabilités locales jointes par RFI, deux hommes à moto l'attendaient près de son domicile. Après l'avoir intimidé et empêché de fuir en tirant des coups de feu en l'air, les deux assaillants l'ont embarqué de force. Président de la société civile de Ménaka, Sidi Barka est une figure locale. Ces dernières années, il a notamment plaidé la cause des dizaines de milliers de déplacés internes qui ont quitté les localités de la région pour trouver refuge dans la ville de Ménaka. La branche sahélienne de l'État islamique contrôle la quasi-totalité de la région et a récemment pris plusieurs otages au Niger voisin qui seraient détenus dans la région de Ménaka. La piste djihadiste est donc envisagée. L'enlèvement de Sidi Barka pourrait également être l'œuvre de bandits locaux aux motivations purement crapuleuses. À ce stade, aucune revendication ni aucune demande de rançon n'ont été formulées, mais l'enlèvement est encore très récent. L'armée malienne et le MSA, groupe armé local partenaire des forces nationales, sont mobilisées pour les recherches.
Récit signé David Bachet. Mogadiscio, la capitale de la Somalie, théâtre d'une nouvelle attaque terroriste. Plusieurs tirs de mortier ont atteint le quartier d'Alan près de l'aéroport très tôt ce matin. L'attaque a été revendiquée dans la foulée par le groupe terroriste Al-Shabaab. Pas de bilan officiel pour le moment. Correspondance régionale.
Au moins 5 mortiers ont touché le quartier d'Alané vers 5h ce matin, confirme une source sécuritaire européenne dans la région. Des témoins qui se trouvaient à l'aéroport d'Aden Adé affirment avoir vu plusieurs tirs et entendu des déflagrations. Très vite, le groupe Al-Shabaab revendique cette attaque à travers un de ses sites internet. Il qualifie le quartier d'Alané de centre de commandement de ses ennemis. Situé près de l'aéroport, Alané est hautement sécurisé. Il accueille les bureaux et résidences des personnels des missions des Nations Unies, de l'Union africaine, de diverses ONG et des ambassades. Cette nouvelle attaque intervient 2 jours après qu'un kamikaze s'est fait exploser près de la base militaire de Damagno à Mogadiscio, tuant au moins 13 recrues. Un attentat condamné hier par les États de la Ligue arabe et l'Union européenne. Depuis plusieurs mois, les Chebab mènent une violente offensive dans les États du centre de la Somalie qui jouxte la capitale. D'après l'Institut américain d'études sur la guerre, ils ont lancé 2 fois plus d'attaques par mois en 2025 que l'année précédente. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
L'armée soudanaise a annoncé ce mardi avoir délogé les paramilitaires de leur dernière position à Omdurman dans l'agglomération de Khartoum, la capitale. L'armée achève ainsi sa prise de contrôle de l'ensemble de l'état de Khartoum qui englobe la capitale. Les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan avaient déjà repris en mars dernier le centre de la capitale et repoussé les paramilitaires de son rival vers des positions à Omdurman. Il est 21h40 à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.